Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures placées sous le signe de la bonne humeur et de la découverte pour vous, de la rivalité et de la fourberie pour eux. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent au service de votre culture G. Au gagnant ira la prestigieuse couronne de chroniqueur du jour, sublime objet, fabrication bangladaise soignée, qui reviendra à celui ou celle qui vous aura offert le sujet le plus étonnant, l'histoire la plus saisissante. En présence aujourd'hui d'une invitée qui va enfin peut-être réussir à m'inculquer les bases du bon goût, ce qui, je le précise, n'est pas gagné, surtout en termes de décoration, comme me le dit mon beau-père à chaque fois qu'il vient à la maison.
Comment fais-tu pour vivre dans un si pitoyable logis? C'est une villette de manants.
J'ai pas les moyens de me payer une déco Sarah Lavoine, moi, que je vais répondre.
C'est pas cher.
Bonjour Sarah Poniatowski.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de la maison Sarah Lavoine, nom qui brille au firmament de la décoration d'intérieur. Vous publiez Couleur Sarah aux éditions du Chêne, un livre dans lequel vous nous apprenez à harmoniser les couleurs en fonction de la pièce de la maison. Que pensez-vous de notre bleu européen? Est-ce que ça vaut le bleu Sarah ou c'est tout pourri?
Non, c'est pas tout pourri.
Elle est polie.
Je suis bien éduquée.
On va évoquer ce beau livre qui est donc un guide pratique. Mais d'abord, avant même de vous présenter mon équipée sauvage, il me faut aujourd'hui, en ce lendemain de résultats d'audience, remercier nos auditeurs. Entre 16h et 18h, vous êtes 81 000 de plus à nous écouter par rapport à la dernière vague d'audience d'avril-mai dernier. On est évidemment très contents, mais est-ce une raison pour frimer à la machine à café comme le fait Eva Rock depuis hier matin en montrant nos chiffres à tout le monde, en déclarant
un peu vertigineux, non?
Ouais. Non, il faut garder le cap, Eva, et surtout rester humble. Bonjour ma chère.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous.
Tout à l'heure vous nous direz ce qu'on regarde à la télé, oui, ou sur les écrans ce soir. À vos côtés, nos deux premiers journalistes en compétition aujourd'hui. Elle aussi n'a visiblement pas très bien compris mes consignes vous incitant à avoir le triomphe modeste, puisque depuis les audiences, elle se balade dans la rédac en lançant des pétales de rose sur ses collègues, s'exclamant
bisous bisous.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Merci aux auditeurs de leur fidélité.
Vous êtes notre spécialiste environnement et aujourd'hui, pour Sarah Poniatowski, un sujet qui réunit agriculture et architecture. C'est-à-dire...
Voilà, on va parler d'une ferme urbaine, une ferme flottante à Rotterdam. C'est la façon de rapprocher aussi les sources de nourriture de la population. Et je vais vous emmener sur cette plateforme flottante avec les vaches.
Des vaches qui flottent ?
Oui, les vaches flottent.
Mais vous n'avez rien pris avant l'émission.
Rien du tout.
Très bien. À ses côtés, Sarah, quand on visite son F4 de Malakoff, on réalise vite qu'il est à la décoration d'intérieur ce qu'Yvette Horner était au rock'n'roll. Une sorte de référence. Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour Mathieu,
mais
comment ça va?
C'est absolument ignoble, d'autant plus que je ne suis jamais allé chez Jean-Philippe Ballas. C'est vraiment dégueulasse.
Légende urbaine.
Vous scannez pour nous, Jean-Philippe, la société, ses évolutions. Aujourd'hui, une question d'écho d'importance. À partir de quand est-il autorisé de décorer son appartement aux couleurs de Noël?
Avant l'heure, c'est pas l'heure.
C'est article très important.
Du New York Times, article de fond, je vous raconterai tout ça.
Merci Jean-Philippe. Voici pour le programme l'équipée sauvage. C'est parti.
Europe 1, l'équipée sauvage.
Et si on repeignait notre chambre?
Ah ouais.
Mais non Eva, on n'est même pas ensemble, ne dites pas n'importe quoi.
Ah bah, je ne sais pas, mince.
J'ai peut-être loupé un épisode. Vous, chez vous, vous songez à repeindre votre chambre, votre couloir, votre salle de bain. Mais quelle couleur s'accorde le mieux à quel espace? C'est tout l'objet du livre que nous présente aujourd'hui la papesse de la déco d'intérieur, Sarah Poniatowski, fondatrice de la maison Sarah Lavoine. Couleur Sarah, c'est le titre.
Déjà, il s'adresse
à... Ça fait beaucoup de Sarah. Il s'adresse à qui ce livre, Sarah? Il s'adresse aux novices comme moi ou aux gens qui touchent déjà un peu leur bille en déco?
Non, il s'adresse à tout le monde. Mais c'est pas forcément un guide que de la couleur ou par pièce. C'est vraiment mes inspirations. Il y a beaucoup de photos. De nature, d'art, de voyage, d'architecture.
C'est un très beau livre, effectivement, mais je me permettais de dire un guide parce qu'il y a, au-delà de la dimension artistique du livre qui est sublime, il y a des conseils, des vrais conseils techniques avec un panel de couleurs.
C'est un livre très graphique, voilà, j'en suis très fière parce qu'on a beaucoup bossé sur l'iconographie, sur ça, et vraiment il est, je trouve, beau. Non, sans prétention, mais voilà.
Il
s'adresse à tout le monde. Voilà.
Même les novices.
Même les novices.
Le bleu Sarah Lavoine qu'on voit sur la tranche, c'est quoi le bleu Sarah?
C'est un bleu...
C'est votre couleur préférée? Vous avez une couleur préférée?
Oui, c'est une couleur déposée même. J'ai ma couleur. Et vous, elle est déposée votre couleur bleue européen.
On va demander à Constance Vinquet, mais à mon avis, elle n'a pas vérifié.
Moi, elle est déposée, le bleu Sarah. Et donc, j'en suis très, très fière. C'est un bleu vert. C'est un échange avec votre humeur, avec la lumière naturelle, échange avec tout. Et je ne m'en lasse pas. Donc, un bleu très profond.
Et quand est-il né ce bleu et comment vous l'avez réalisé?
Alors,
si c'est possible de rentrer dans les...
Je ne suis pas très bonne avec les dates,
fabrication.
Mais en fait, il s'est imposé à moi. Voilà, c'est lui qui m'a choisi.
Ça veut dire quoi de déposer une couleur en fait?
Parce qu'en fait, comme on s'en sert sur des meubles, sur des peintures, pour des peintures, sur des objets, Là, on a voulu que, comme le bleu Klein, il appartient à Klein, ou le bleu Majorel, enfin voilà, donc on fait partie de ces...
Donc quand j'étais en train de vous dire en antenne que j'ai fait ma cuisine avec ce bleu, en fait, j'aurais dû vous payer des droits.
Voilà.
Il va falloir que je démonte cette cuisine.
Je vais débarquer dans votre cuisine.
Elle est la reine de l'élégance, Sarah Poniatowski, fondatrice de la maison Sarah Lavoine, est notre invitée cet après-midi.
Europe 1.
À suivre, Noël approche, mais les amis, attention aux fautes de goût. De même qu'il est tout à fait interdit d'écouter une reprise française du tube de Mariah Carey... Voilà, ça, c'est... voilà, faute de goût, interdit. Il faut aussi veiller à ne pas décorer trop tôt sa maison aux couleurs de Noël. Vous allez voir qu'aux États-Unis, on ne plaisante pas avec cette question. À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue et puisque nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Sarah Poniatowski, référence mondiale de la décoration d'intérieur avec sa maison Sarah Lavoine, je propose qu'on évoque une question cruciale à l'approche des fêtes. Car si la nuit de Noël peut être un moment merveilleux de magie et de réconciliation familiale...
Écoutez, monsieur Mascovic, ça fait des années que vous nous cassez les couilles. Alors maintenant, rentrez dans votre pays et foutez-nous la paix. Et dégagez votre doigt.
C'est vrai, mais Noël peut aussi, hélas, être le théâtre de terribles fautes de goût. La première, la plus grave, Jean-Philippe Ballas, étant tout simplement de décorer sa maison aux couleurs de Noël trop tôt, en fait.
Je vous emmène aux États-Unis. Vous savez, on adore les décorations de Noël. On en met absolument partout sur les façades de maison. Vous voyez, le bleu de Sarah, bah, c'est exactement l'inverse côté bon goût. Des guirlandes électriques qui nécessitent souvent l'usage de plusieurs centrales nucléaires et qui clignotent à vous rendre épileptique. Mais que voulez-vous ? C'est la magie de Noël. Non, la vraie question, c'est effectivement à partir de quand on dégaine la déco. Et le débat est lancé depuis qu'à San Antonio, au Texas, une famille a décidé de sortir l'artillerie lourde dès le lendemain d'Halloween. Oui, paf, le bonhomme de neige gonflable devant la maison, les petites lumières, tout le tintouin, au début donc du mois de novembre. Mais attention, attention, ça plaît pas à tout le monde. À tel point que la famille en question a reçu une lettre officielle tamponnée d'une association de propriétaires du coin, oui. Une lettre la mettant en demeure de retirer le bonhomme de neige parce que c'est trop tôt, c'est trop abusé. Alors vous imaginez la colère froide du père de famille qui se dit que décidément, il y a des gens qui ont de vrais combats dans la vie et du temps à perdre. Mais surtout, le monsieur vous explique le pourquoi du comment. Son épouse est enceinte. Et le terme, c'est quand ? C'est le 25 décembre prochain. Alors oui, pour ne pas être pris de court, ils ont mis en place la déco. Pas de quoi fouetter un renne ou un lutin. D'ailleurs, la famille a décidé de laisser les rennes et les lutins dans le jardin et même d'en rajouter... avec un petit Santa Claus, je trouve ça très gros, très drôle, un petit Santa Claus qui tient un écriteau sur lequel on peut lire « Je vous jure, ceci n'est pas une déco de Noël, c'est pour Thanksgiving !» D'ailleurs, les Américains interrogés sur le sujet vous disent qu'en vrai, quand il y a un point de règlement dans une copropriété, eh ben c'est souvent Thanksgiving, en l'occurrence le 28 novembre, qui sert de point de repère. Après la dinde, vous pouvez sortir les rennes, bah oui, une fête à la fois, sinon c'est gâché. N'empêche qu'il y a une étude très sérieuse qui affirme aussi, toujours aux États-Unis, que plus vous décorez tôt, plus vite vous laisserez envahir par ce petit parfum d'enfance, de légèreté, et que ça fait du bien. Bon, moi perso, tant qu'il y a du Sinatra, ça me va.
Ah oui.
Et puis le vrai problème avec la déco de Noël, finalement, c'est pas combien de temps on les met avant, c'est combien de temps on les laisse après.
Mais oui.
Pourquoi vous me regardez comme ça, Jean-Philippe ? Est-ce que vous êtes au courant de l'histoire du sapin de Noël chez moi ou pas ?
Voilà, et c'est un petit message à ma voisine du dessous qui a laissé sa couronne de Noël sur sa porte jusqu'au mois d'avril dernier.
Au mois d'avril, je vous demande de deviner jusqu'à quand le sapin de Noël est resté chez moi.
Je peux en témoigner. Allez.
Non.
Oh bah, je pense qu'on était au mois de juin, non ?
Ah non,
ouais, on était mi-juin. Un vrai sapin, pire, la crèche. Parce que j'ai fait une crèche pour mon fils. Hein. Elle est toujours là. Elle est prête pour le Noël qui arrive, parce que je l'ai laissée de l'année dernière, la crèche. N'a pas bougé. Sarah Lavoine, la décoration de Noël, est-ce que ça peut être quelque chose d'élégant ou c'est toujours forcément cheap et forcément moche ? Ou est-ce qu'il y a des belles décos de Noël ?
Non, il peut y avoir des belles décos de Noël, bien sûr. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, bon, ils sont tous dans l'excès. Mais moi, je ne suis pas très fan de Noël, en fait.
Vous, dans votre
j'aime pas tellement vous,
chez vous,
de Noël.
Chez vous, il n'y a pas de déco de Noël. Dans votre appart, on n'aura jamais de sapin ou de...
Si,
si
bien sûr,
de sapin,
j'ai trois enfants. Donc, non, et le moment où on accroche les décorations sur le sapin avec les enfants, c'est un vrai moment de partage. Donc, c'est bien sûr. Mais voilà, c'est pas un moment que j'apprécie plus que ça.
Eva, est-ce que vous ferez le sapin ? Est-ce que vous avez déjà dressé le sapin, Eva ?
Non, mais vous rappelez que ma condition de célibataire. Donc, je vais pas décorer la maison pour moi toute seule.
Ben, si vous pourriez justement vous mettre dans la magie de Noël comme ça.
J'ai acheté juste un petit sapin en bois.
Non, mais je comprends. Je n'ai pas ton sapin pour toi.
La tristesse absolue. Pour te faire une photo.
Je crois même que je l'ai amené au bureau parce que je trouvais que c'était ridicule chez moi. Alors c'est je vais vous le sortir pour Noël. Ouais.
Vous allez me le sortir. Jean-Philippe Ballas.
Je lance un appel aux auditeurs. Envoyez chacun un sapin. À Eva.
C'est beaucoup trop petit chez elle.
Oh là là, non. Bah, grand Dieu.
Non, voilà, on les foutra devant Europe 1. Quelle couleur associer, quelle couleur ne pas associer? La réponse vous attend dans Couleur Sarah, le livre de notre invitée Sarah Poniatowski.
Europe 1.
À suivre, la dernière fois qu'elle avait choisi de parler de vaches dans sa chronique environnement, Anne Le Gall avait permis à notre émission de franchir un cap en termes de chic.
Je vais vous parler précisément des vaches à bas carbone. Il y a des vaches qui dégazent propre. Ouais. Ce sera raffiné.
Après les vaches qui dégazent propre, découvrez les vaches sur l'eau. Visiblement, Anne Le Gall n'a toujours pas raccroché l'héros. On vérifie ça juste après Alec Benjamin. Let me down slowly sur Europe.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, la grande compétition des journalistes d'Europe 1. Deux heures pour étoffer votre culture générale sans négliger vos zygomatiques, en présence d'un invité qui parfois se passionne pour les chroniques et de nos journalistes.
Qu'est-ce que c'est, pardon?
Je vais vous parler du biomimétisme.
Bah, je vais y aller les gars, hein. Je me casse.
On embrasse Elie Semoun, notre invité d'hier. Aujourd'hui, c'est Sarah Poniatowski, la fondatrice de la maison Sarah Lavoine, qui nous accompagne. Sarah Lavoine, quand on est, comme vous, une icône de la déco.
Une icône.
Est-ce que vous vous sentez investie d'une responsabilité quant à nos goûts, à nous? Vous forgez nos goûts quelque part. Moi, j'ai l'impression, quand je vois vos boutiques, que c'est mon goût. Mais c'est pas mon goût, en fait, c'est le vôtre qui a déteint sur les gens qui suivent la mode de la déco.
Ça, c'est une vraie question. Ah bah, je me suis jamais posée, parce que je travaille à l'instinct, et donc je me dis pas, oh là là, je vais forger votre goût si vous rentrez chez moi. Mais c'est une bonne question, en effet.
Et vous, vos goûts ont changé au fil des années? Ou par exemple, ces couleurs-là, moi je trouve qu'elles sont très représentatives de vous. Et forcément, vous les avez choisies pour la couverture de votre livre. Ouais. C'est des couleurs que vous avez toujours aimées ou c'est avec le temps que ça s'est dessiné?
Avec le temps, on a créé une collection de couleurs avec Maison Ressources. Mais non, moi je suis autodidacte, je n'ai pas fait d'études et tout ça, donc je me sens plutôt très un petit canard là-dedans.
Et est-ce que vous vous sentez une responsabilité vis-à-vis des gens qui ont mauvais goût? Par exemple, si vous entrez quelqu'un, le meuble est mal placé, le bleu, le rose, ça ne va pas du tout. Est-ce que vous dites quelque chose?
Si, au contraire. Non, ma grand-mère m'a toujours dit qu'il n'y avait pas de mauvais goût, c'était chacun son sale goût.
C'est plutôt ça, oui.
Voilà, donc il y a plein de gens qui n'aiment pas ce que je fais. Hein.
Vous dites que vous travaillez à l'instinct, mais pour revenir sur cette histoire de goût, vous dites « je ne me suis jamais laissé imposer le goût des autres ». Moi, c'est l'inverse. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens, ça doit être comme ça, quand on n'a pas forcément le goût des choses. Moi, je me laisse facilement imposer le goût des autres. Moi, je rentre dans votre boutique, je trouve que tout est merveilleux.
Ah, parce que c'est fait pour ça.
Oui, mais c'est bizarre quelque part. Comment des gens comme non, vous, mais... ça vient d'où cet instinct pour la couleur
Je pense que ça vient d'une curiosité sur le monde, d'un émerveillement perpétuel. C'est-à-dire que même de chez vous, il y a la Seine, il y a la lumière, et puis il y a un coucher de soleil. Et je ne m'en lasse jamais, en fait. Je m'émerveille toujours de cette nature ou d'une expo. D'un tableau, j'étais voir l'expo Léonard de Vinci, c'est exceptionnel. Enfin,
mais là, dans l'expo Léonard de Vinci, vous avez trouvé des idées de déco.
Des idées de couleurs, des émotions, en tout cas ça provoque des émotions qu'on retranscrit en déco.
Eva.
Est-ce que vous avez une sorte de cahier des charges et des questions que vous posez régulièrement à vos clients pour comprendre ce qu'ils veulent? Vous voyez, une sorte de questionnaire de Proust, mais qui serait un questionnaire de Proust de la décoratrice.
C'est vrai que c'est beaucoup de psychologie quand on travaille pour des clients, surtout pour un appartement ou une maison. Donc, tu rentres dans leur intimité. Donc, moi, je n'ai pas fait d'études, sauf un peu de psycho. Et ça me sert beaucoup, finalement. parce que surtout dans un couple. Monsieur et madame ne sont pas d'accord. Pas très simple.
Bah, de toute façon, c'est toujours madame qui a raison.
Pas toujours. Peut-être chez vous, mais pas toujours.
C'est toujours comme ça. Est-ce qu'il y a un conseil concret qu'on peut donner aux gens? Parce qu'effectivement, les associations de couleurs, vous les retrouverez dans le livre, il y en a plein, mille et une associations de couleurs qui vont bien ensemble. Est-ce qu'il y a des associations qui sont impossibles? Vraiment des choses qui sont interdites?
Non, rien n'est interdit.
Il n'y a pas une couleur qui ne va pas dans telle
plaisir,
pièce,
en fait.
Par exemple.
On est là pour se faire plaisir. Le monde est assez compliqué, donc il faut se faire plaisir.
On peut mettre du noir dans une salle de bain?
Oui.
Même si ça ne nous fait pas trop un teint...
Non, mais c'est vrai. J'ai eu un mauvais teint. Non, alors j'ai dit pas de verre.
Pas de verre, c'est vrai.
Pas de verre.
Parce que t'as un sale teint, quoi. T'as une sale gueule.
Pas de verre dans la salle de bain.
Pas de verre dans la salle de bain, maintenant, pas vraiment, non. Ah, votre salle de bain est verte?
Pas du tout, elle est un peu vieux rose, je crois.
Ah, oui, ça va,
très bien. Grâce à elle, peut-être que l'appart de Ballas à Malakoff reprendra-t-il forme humaine un jour. La décoratrice Sarah Poniatowski-Lavoine passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Bon, je plaisantais tout à l'heure hein, quand je laissais entendre que je n'avais aucun goût. C'est évidemment du deuxième degré, une forme de politesse. Anne Le Gall, qui s'apprête à entrer dans la compétition, peut en témoigner. Elle est venue chez moi dernièrement. Elle vous dira, ma chère Sarah, que la cuisine que j'ai faite faire sur mesure par un ébéniste japonais est un bijou. Elle date de 2016 et en l'espace de 3 ans...
Elle est devenue furieusement has-been.
Référence en matière de déco. Tu peux t'asseoir sur ton point, toi. Anne Le Gall à suivre pour un truc sur les vaches, j'ai pas trop compris.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipé sauvage.
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage continue. 2 heures d'un combat épique entre les plus beaux spécimens journalistiques de la rédaction d'Europe 1 et sous l'égide aujourd'hui d'une authentique princesse. Même si les mauvaises langues ne pourront s'empêcher de faire remarquer que hier aussi, quelque part, on recevait une princesse en la personne exigeante d'Elysée Moon.
Le thé était dégueulasse, mais c'est un thé de bureau, quoi. Un pec citron chauffé.
Certes, votre Altesse. Mais aujourd'hui, on reçoit une vraie princesse. Sarah Lavoine, Sarah Poniatowski, vous êtes la fondatrice de la maison Sarah Lavoine, vous êtes aussi une princesse.
Oui.
Vrai.
Oui.
Est-ce que vous êtes issu d'une famille de l'aristocratie polonaise, la famille Poniatowski, descendant direct du roi de Pologne, c'est pas oui. rien. Ça fait quoi d'être une princesse? Vous y pensez parfois?
J'y pense. C'est un rêve d'enfant, de petite fille, d'être une princesse. On aime les princesses.
Et quand vous étiez petite fille, vous avez donc conscience de ça? Parce qu'on dit à toutes les petites filles qu'elles sont des princesses, vous en étiez vraiment une? Vous avez conscience de cette différence?
On est une princesse du 20e siècle, du 21e siècle. Mais c'est vrai, quand on passe par exemple au Louvre, devant le Louvre avec les enfants, ouais. et qu'ils voient notre ancêtre. Ça fait plaisir, on est fiers.
Il est où votre ancêtre?
Sur le Louvre, il est maréchal de France aussi. Il y avait le roi et il y avait un maréchal de France. Donc, non, c'est vrai que c'est un très beau nom. Après, dans le quotidien, ça ne change pas grand-chose, hein, je vous confirme. Mais la couronne, je pourrais prendre la couronne?
Ah oui, vous pouvez prendre la couronne.
Celle-ci, je ne suis pas sûr qu'elle soit digne de vous.
Il y a une chose que vous avez faite, Sarah, et que nous, on n'a pas fait, qu'on n'a pas fait avec Anne. Vous êtes allée au bal des débutantes.
Ah ouais.
Ah vous l'avez fait ça.
On m'a traîné, on m'a forcé.
Et alors, c'était sympa.
Cauchemar. Je n'ai pas imposé ça à ma fille, hein, je vous le dis. Hein. Les rallyes, les machins, les trucs de ballet débutant, des cauchemars.
Ouais.
Alors ça, c'est à part pour la belle robe.
Vous en souvenez encore de cette robe?
Ouais, je m'en souviens encore. Mais sinon, un cauchemar.
Mais donc ça c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que vos enfants ne vont pas fréquenter ce milieu-là, les rallyes, tout ça.
Ah pas du tout, non.
Bah, oui, alors on peut en penser ce qu'on veut, mais alors du coup c'est la fin de ce milieu quelque part.
Je leur transmets d'autres choses.
D'autres valeurs.
D'autres valeurs.
Plus fêtarde, non c'est ça, ça.
Moi j'aime rire.
Alors justement, Sarah Poniatowski, en hommage à vos racines polonaises, Anne Le Gall nous entraîne maintenant à Rotterdam. Va comprendre. Anne, soit vous avez mal bossé la bio de l'invité, soit vous êtes nulle en géo, soit troisième option, vous avez dit on s'en fout, j'ai envie de parler des vaches hollandaises, je parle des vaches hollandaises.
Alors Sarah Lavoine, vous aimez la nature, vous aimez l'environnement, je le sais. Je le sais.
Oh, bien joué.
Donc effectivement, on quitte les salons feutrés parisiens, le bal des débutantes. Je vous emmène à Rotterdam. 1,5 million d'habitants, c'est le plus grand port d'Europe. Et depuis le mois de mai dernier, effectivement, au milieu des grues, des containers, des paquebots, il y a une plateforme à 2 étages qui flotte dans le port avec dessus 35 vaches. Des vaches laitières, noires et marron, qui sont abritées par un toit transparent.
Mais alors, elles broutent où ces vaches?
Alors, elles sont sur leur plateforme, sous leur toit transparent, et elles sont dans des box, donc elles se nourrissent de fourrage. C'est pas une prairie flottante, hein, ça ressemble plus à une étable flottante.
C'est horrible.
Mais c'est pas terrible, quoi, pour la condition animale.
Elles ont dans leur mangeoire un fourrage qui vient à 80% de la ville de Rotterdam. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fourrage? Il y a de l'herbe coupée qui vient des terrains de foot, il y a des résidus de céréales qui viennent des brasseries de Rotterdam, et il y a comme ça 80% du fourrage qui est en circuit court. En fait, cette ferme est vraiment très écolo. Elle fonctionne à 50% par de l'énergie solaire. Et le lait produit par les vaches, donc 1000 litres par jour quand même, ce lait ensuite est revendu sur place et dans les supermarchés du coin. Et donc, c'est une ferme qui se veut très, très vertueuse sur le plan écologique.
Voici maintenant la plus belle relance de l'histoire du journalisme. Relance qui m'a été écrite par Anne Le Gall. Et je m'apprête à la dire... Avec toute ma faculté de comédien, acteur studio, attention, Anne, mais les vaches n'ont pas le mal de mer.
Mais je suis sûre que vous vous posez la question.
Bah
en vrai.
Alors non, mais...
Mais non, mais sauf qu'une plateforme, ça tangue pas normalement.
Est-ce que le lait ne va pas tourner?
Alors, Le lait ne tourne pas, les vaches peuvent avoir le mal de mer. Elles sont comme nous, elles ont, voilà, elles ont des sens, elles sont sensibles comme ça au roulis. Donc même si la plateforme est stable, même si elle est conçue pour résister aux vents forts, aux tornades, les vaches effectivement peuvent avoir le mal de mer. Mais alors évidemment, elles sont très suivies par des vétérinaires. Elles ont des paramètres de santé qui sont enregistrés par un collier. Et évidemment, si jamais elles ont le mal de mer, il y a quand même un échappatoire. C'est-à-dire qu'il y a un petit pont de 20 mètres qui peut les conduire dans une prairie à côté. Donc en fait, 8 mois par an, ces vaches peuvent aller se détendre un peu, gambader dans un espace vert et brouter vraiment sur la terre ferme, juste à côté, en passant par un petit pont. Il y a quand même 6 veaux qui sont déjà nés dans cette ferme depuis 6 mois. Et voilà, le lait ne tourne pas, non Mathieu.
Est-ce que ces fermes flottantes, c'est vraiment l'avenir? Moi, je vous réponds non. Vous pouvez me répondre autre chose si vous voulez.
Non, c'est clair que ça ne remplacera pas les fermes rurales, les prairies, les pâturages. Et ce n'est pas le but, hein. Même le fondateur de cette ferme en est convaincu. Lui, il a travaillé 50 ans dans le secteur de l'énergie. C'est un écologiste convaincu, il s'appelle Peter Van Virgenden. Et il explique qu'en fait, le but, ça n'est pas de remplacer les fermes classiques, mais de créer de nouveaux systèmes d'alimentation. En fait, l'idée est née quand il était à New York en 2012, au moment de l'ouragan Sandy. Tous les transports ont été arrêtés et il y a eu de vrais problèmes d'approvisionnement alimentaire à ce moment-là. Donc il s'est dit, il faut inventer des circuits courts. Il faut aussi, pour réduire la pollution par les transports, rapprocher les sources d'alimentation des habitants. Il faut savoir qu'en 2050, les deux tiers de la population vivra en ville. Donc il faut qu'on ait aussi de l'approvisionnement local. Donc c'est dans ce but-là qu'il a lancé cette ferme. Il y a d'autres villes que Rotterdam qui se sont montrées intéressées. Il y a Singapour, où l'espace effectivement est très réduit. Il y a Los Angeles et il y a Londres aussi.
Mais ça pose quand même le problème du confort animal, parce que c'est très bien d'avoir du lait en plein centre de la ville, en circuit court, mais ces vaches, elles ne doivent pas être très heureuses sur ces barges.
Ce type de ferme existe aussi sur la terre ferme.
Oui, mais et encore y a plus
une de fois, place. Alors c'est limité, ce sera limité à 40 vaches. Et encore une fois, ça ne remplace pas l'élevage en plein air qui reste aussi pour l'environnement, qui reste l'idéal, puisque les prairies captent le carbone, évidemment.
Peut-être que le box est très grand, qu'elles sont très bien installées, que la déco est jolie.
La déco
et tout.
Est signée Sarah Lavoine, en tout cas, pour ces vaches. Ouais.
Je crois pas, mais...
Moi, je suis très sur les circuits courts, mais les pauvres vaches, j'ai du mal à les imaginer là-dedans, quand même.
Elles sont pas enfermées dans leur box, quand même.
Là, chose étonnante, on me signale en régie qu'on n'a pas le temps pour la question vache, qui est quand même le comble sur ce sujet aujourd'hui. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute peut-être pas, mais bon, dans le doute, pour votre déco d'intérieur, faites plutôt confiance à notre invitée du jour, Sarah Lavoine, qui est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée, il y a des minutes, nous le sentons tous, qui dépasse chacune de nos pauvres vies. Eva outragée, Eva brisée, Eva martyrisée, mais Eva libérée. Puisqu'hier, Eva Rock a enfin remporté un quiz face à l'invité.
Ah,
rééditera-t-elle l'exploit aujourd'hui?
Mais Moi.
Oui, c'est pas sûr.
L'équipée sauvage. 16h, 18h.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Amis sadiques, astiquez vos martinets, bienvenue dans votre séquence préférée de l'émission. Le quiz qui oppose Eva Rock, souvent démunie, à notre invité souvent favorisé par le thème du questionnaire. Une séquence qui peut choquer les âmes sensibles, de même d'ailleurs que le concept général de notre émission où nous notons les journalistes. Mais si, comme Élise Mounière, vous êtes choqués, n'oubliez jamais une chose importante.
C'est atroce de se noter entre amis.
Mais on n'est pas amis.
Eh oui, donc aucun problème pour se foutre sur la gueule. Alors,
pour une fois que j'étais lucide.
Sarah Lavoine, comme vous êtes la reine de la déco.
Ouais.
Pour le quiz du jour, nous avons choisi de rester dans le thème de la décoration. Mais pour qu'Eva ait quand même une chance, nous allons partir sur une déco simple. On va parler d'IKEA. En Suède.
Oh mon Dieu.
Pour éviter qu'on nous reproche de faire de la pub, on va citer les concurrents. But, Conforama, Maison du Monde, Chipster Belin. Voilà. Le principe est simple. Je vous donne un nom de meuble IKEA. À vous de nous donner à quoi ce nom correspond vraiment.
C'est super dur.
Ça, je vous confirme que c'est super dur.
Il n'y a pas de mots inventés. C'est des vrais mots de
oui, mais
chez
on y croit
IKEA.
Est-ce que j'ai l'habitude d'inventer des choses?
Oui.
Non.
D'accord.
C'est sérieux. Trois propositions à chaque fois. C'est parti. Sarah Lavoine, vous avez peut-être chez vous une étagère Kallax. Ça veut dire quoi, Kallax? La fête? Le lever du soleil? Ou l'amitié?
Pardon, j'en crache.
Vous en crachez sur les bonnettes Europe 1 qui, du coup, vont peut-être devenir bleues, Sarah, peut-être.
Ma salive va être ma...
Exactement. C'est magique.
C'est magique. Je ne sais pas. Un rayon de soleil. Un coucher de lever de soleil.
Je vous donne un indice, Sarah. J'aime bien l'inviter.
J'aime bien aider l'invité. Vous avez dit tout à l'heure que c'était quelque chose qui vous ressemblait. La fête, le lever du soleil ou l'amitié?
La fête. Et la... Les trois.
Voilà,
les trois.
Mes bonnes réponses, c'était la fête. C'est vrai qu'une fête sans étagère, ça craint.
Non, c'est pour poser les verres.
Et Varrock, oui, vous en avez. À Ikea, il y a un tapis du nom de Ampen. Ça veut dire quoi en suédois? Ampoule, ce qui est étonnant pour un tapis. Cannabis, en argot suédois. Ou l'expression s'allonger de tout son long.
Ah non, c'est trop facile, s'allonger de tout son long. On va dire cannabis.
Cannabis, et eh oui, et ah, bravo. Campagne, voilà. Ça veut dire cannabis, et c'est vrai qu'une fête sans tapis, c'est moins drôle.
Ça s'appelle fumer la moquette.
Exactement.
Ah, c'est pour ça.
Jean-Philippe Ballas, rien que pour avoir trouvé l'origine de ce choix de nom pour un produit, j'ai envie de vous donner un point. Je vous donnerai peut-être tout à l'heure en fin d'émission mon point.
D'accord.
Mais peut-être que je changerai d'avis, parce que je suis quand même une belle enflure. Sarah Lavoine, vous avez peut-être chez vous un clude, à savoir un tableau d'affichage en verre. Ça veut dire quoi? Un dessin maladroit, chanter faux ou mauvais cuisinier?
Réponse 1.
Un dessin maladroit?
Ouais,
vous êtes très forte. Oui, c'est un dessin maladroit, effectivement. Tout
je
a un sens.
C'était cuisinier mal foutu, là. Je sais pas trop quoi.
Et pourquoi ça aurait été cuisinier mal foutu?
Parce que comme ça, vous avez un tableau à côté et vous marquez tout ce qu'il faut faire.
D'accord. Et bah,
moins un.
Chez Ikea, pour 3,99€.
Une bougie.
Soit 1000 fois moins que n'importe quel cadre chez Sarah.
Ah non, non. Arrêtez. Je suis pas chère.
Je suis pas Ikea.
Ah ça, vous n'êtes pas Ikea, c'est sûr. Pour 3,99€, vous pouvez acheter une carafe Drikjom. Ça veut dire quoi? Dans de bonnes dispositions, douche glacée ou beuverie?
Non, bah, je vais pas le dire. Ça doit être douche glacée.
Douche glacée, Sarah Lavoine, faites beuverie. Confiance à votre instinct.
Beuverie. Beuverie.
Drik, c'est boisson alcoolisée en suédois.
Non, je voulais pas le dire parce que sinon, c'est bon. Enfin, voilà.
Ça peut être interprété contre vous.
Oui.
Eva Rock, Sarah Lavoine, ultime question. D'où vient le nom de la fameuse bibliothèque Billy? De la chanteuse Billie Holiday? Du chanteur Billy Idol? Ou du type qui était en charge du catalogue Ikea en 79?
La troisième option.
Et moi, j'irais Billy Holiday.
Mais oui, vous dites n'importe quoi, comme toujours. Alors que Sarah Lavoine, elle réfléchit, elle utilise son cerveau. Et elle a raison. En 1979, Billy Lidsdorf était en charge du catalogue. Il s'est plaint auprès de son patron qu'il n'y avait pas de bibliothèque. Et bien donc, on l'a appelé la première bibliothèque de l'histoire Ikea, Billy.
C'est ce qu'on fait chez nous aussi.
Comment ça, ce que vous
faites? Moi, j'ai des prénoms. Je donne les prénoms de mes enfants, de mes collaborateurs, des enfants des collaborateurs. On cherche comme ça.
On a abordé la question durant le quiz. Est-ce que le beau est forcément cher?
Non, le beau n'est pas forcément cher, même quand on fait des collections pour... On a le droit de dire des marques?
Oui.
Pour Monop ou pour... Voilà.
Vous avez
ouais,
eu des collaborations?
On a fait des collaborations avec Monoprix ou avec La Redoute. Ça reste beaucoup plus accessible. Après, nous, on travaille en circuit court, comme les vaches.
Donc forcément,
notre travail coûte un peu plus cher, notre assiette, parce qu'elle est faite en France et pas en Chine.
Tout est fait en France?
France, Espagne, Portugal, vraiment Europe,
Union
un peu
européenne.
De Pologne, voilà, Union Européenne. Mais donc ça a un prix, ça a une valeur d'un artisan...
Mais justement, on parle beaucoup d'écologie. Mmh. Est-ce que cet état d'esprit écologiste est imprégné la décoration aujourd'hui? Est-ce que c'est des contraintes que vous devez prendre en compte?
Ce sont des contraintes énormes. Mais on n'est pas parfait encore, mais on essaye de progresser. Mais oui, on s'interdit plein de choses parce qu'on ne veut pas aller en Chine ou faire travailler des petits-enfants ailleurs.
Une question très concrète pour nos auditeurs, et surtout, je ne le cache pas, pour moi, qui suis en train de décorer un appartement. Est-ce que c'est possible d'associer certains éléments Sarah Lavoine, haut de gamme, avec, par exemple, un meuble Ikea à côté?
Mais
est-ce que c'est
sûr.
Possible ou c'est une
moi,
contradiction?
Moi, j'ai une cuisine Ikea.
Vous avez une cuisine Ikea?
Ouais.
Eh bien voilà, nous avons le scoop européen de la journée. Très bien, son livre, Couleur Sarah, est une bible pour ceux qui veulent redécorer leur appartement sans se tromper. Sarah Lavoine nous distille ses conseils peinture et déco tout au long de l'après-midi.
Europe 1.
C'est un des plus grands philosophes de l'histoire de la pensée.
Francky Vincent?
Non, pas Francky Eva, l'autre.
Patrick Sébastien?
Non, l'autre encore, Montaigne. Figurez-vous qu'une enquête est en cours aux alentours de Bordeaux. On aurait retrouvé la dépouille de Michel de Montaigne, le père de l'humanisme français. Je vous laisse sur cette note de suspense. On revient juste après M, thérapie sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures à la découverte de toute anecdote pouvant nous permettre de briller dans les dîners. Et celle-là, je l'aime d'avance. Eva, Montaigne, ça vous dit quelque chose?
J'ai bu un coup avec lui, mais je ne sais pas s'il s'en souvient.
Oui. Michel de Montaigne, l'auteur des pensées, a marqué la philosophie occidentale, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Après 4 siècles d'enquête, on serait sur le point de le localiser. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Il y a un an, dans les sous-sols du musée d'Aquitaine, en plein centre de Bordeaux, on découvrait derrière des étagères une structure maçonnée. On vient de l'ouvrir, et là, un cercueil Stéphane, et une plaque en cuivre qui laisse apparaître le nom de Michel de Montaigne. Fin de l'énigme, Colombo?
Eh bien non, parce qu'il faut encore établir formellement qu'il s'agit bien de la dépouille du philosophe. Alors, comme sur une scène de crime, vêtu de combinaisons blanches et portant un masque, les scientifiques ont soulevé le couvercle du cercueil. C'est une archéo-anthropologue, Hélène Réveillas, qui dirige les investigations.
C'est comme une enquête policière. Sur les ossements, on va mener une analyse anthropobiologique, donc essayer de déterminer le sexe, estimer l'âge, voir s'il y a des pathologies. Parallèlement, on va aussi mener des analyses ADN et comparer, si possible, à l'ADN d'un ou d'une descendante actuelle.
Et comment retrouve-t-on les descendants de Montaigne pour les comparaisons ADN ?
C'est pas simple, on bosse, on enquête et on entre en contact avec Dominique Deur, par exemple, qui a découvert assez récemment d'ailleurs cette filiation.
Par mon frère, qui est un féru de généalogie et qui a découvert une filiation par ma grand-mère paternelle avec la famille de Montaigne. Moi je serais tout juste fournisseur d'ADN dans cette histoire, c'est tout. C'est un peu touchant, disons.
Les recherches généalogiques se poursuivent, mais il n'y a pas que l'ADN qui pourrait permettre d'affirmer qu'il s'agit de Michel de Montaigne. Il y a d'autres éléments à étudier, comme le souligne le premier adjoint au maire de Bordeaux, Fabien Robert.
Pour recouper avec l'ADN, il faut avoir des descendants en ligne directe. Nous en avons identifié plusieurs, mais faut-il encore qu'ils soient vraiment de lignée directe ? Donc on va aussi regarder les os, puisqu'il est décédé de la maladie de la pierre. On va regarder également l'état du squelette, puisqu'on sait qu'on a extrait son cœur au moment de sa mort, et donc on peut sans doute voir l'extraction sur les ossements.
La maladie de la pierre, vous voyez ce que c'est ou pas la maladie
pas
de la pierre
tout. Ça me fait peur, et comme je suis hypochondriac, je ne veux même pas savoir ce que c'est. Je me bouche les oreilles, dites-le à nos auditeurs.
Non, je vous rassure, ça n'a rien à voir avec les quatre fantastiques, c'est en fait que l'auteur des essais souffrait de calculs rénaux, et du coup, les scientifiques pourraient, au cours de leur minutieux prélèvement, tomber dans le cercueil sur des concrétions calcaires, et qui constitueraient un indice précieux, parce que ça voudrait bien dire
que c'est lui.
C'est un malade.
Ou un autre type qui souffrait de calculs rénaux.
Qui souffrait de calculs rénaux, exactement.
Merci Stéphane Place pour cette enquête de terrain.
À bientôt.
Europe 1.
L'équipe sauvage spéciale bon goût continue en compagnie de la décoratrice star Sarah Lavoine qui nous révèle les bonnes couleurs pour la bonne pièce tout en échappant au concept frelaté de tendance. Vous n'aimez pas, j'ai lu, les tendances, Sarah. Vous n'y croyez pas à ça ?
Je n'y crois pas parce que les tendances, c'est un peu comme la mode qui se démode en fait. Et moi, j'ai une décoration et même je m'habille dans l'intemporalité. J'aime les choses qui durent. Et donc, non, je suis très mauvaise en tendance. Si vous me demandez la couleur d'année prochaine, je ne saurais pas.
Mais enfin, je trouve que c'est un peu faux cul. le bleu, Sarah.
Bah, il reste.
Excusez-moi, mais il y a nombre de restaurants depuis 5 ans à Paris qui ont des comptoirs de ce bleu-là. Et c'est donc, on peut dire, une couleur tendance.
J'espère qu'elle ne sera pas tendance, parce que sinon elle va se démoder. Et je veux qu'elle soit encore là
qu'elle
dans 200
éternelle.
Ans.
Vous restez avec nous. Qui dit deuxième heure, dit deux nouveaux concurrents pour le titre de chroniqueur du jour. J'espère que vous êtes aussi impatients de les découvrir. Kélissé Mounière.
Alors, les deux nouveaux ringards, qui sont-ils?
À tout de suite.
16h, 18h.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Avant d'entrer dans la deuxième phase de notre grande compétition journalistique, j'aimerais revenir sur l'ambiance formidable qui règne dans notre équipe et au-delà de notre équipe, entre nous et les invités. Des invités avec qui, il faut le dire, on est souvent cul et chemise. Hier, par exemple, Eva Rock avait hâte de retrouver son poteau, Elise Moon, son Elinou, comme elle l'appelle depuis cette soirée hyper sympa qu'elle avait passée avec lui et 47 autres habits dans un bar une fois en 2016 ou 14. Bref, un truc qui a dû marquer Elie. Enfin, c'est ce qu'elle croyait.
On avait bu un verre ensemble avec Vizorek, Elie.
Oui, oui, oui.
Vous en souvenez?
Oui.
Juste avant Jérôme Commandeur.
Oui, oui.
Avant le spectacle de Jérôme.
C'était des belles retrouvailles, Eva. Il était ravi.
Ah, mais c'est horrible comme il réinterprète la réalité, quoi.
Interprète rien du tout. Je livre à nos auditeurs
un moment
de radio comme ça vécu hors antenne. Espérons qu'il y en a d'autres aujourd'hui. Est-ce que vous êtes aussi copine avec Sarah Lavoine, notre invitée aujourd'hui?
Alors, on a des amis en commun, figurez-vous. Mais bon, on ne vous le dira pas. Voilà.
Je confirme.
Merci, Sarah. Merci beaucoup. Est-il vrai que vous avez rencontré le Dalai Lama?
Oui.
Orson Welles?
Oui.
Hein? Yves Saint-Laurent?
Oui.
Voilà, je savais que j'allais vous bluffer, Mathieu.
Mais donc, oui. Ah oui.
Comment ça s'est passé, ces rencontres?
Mon père travaillait au Vogue, au journal magazine Vogue, et donc... comme voilà, il nous aimait beaucoup, ces deux filles, ils nous trimballaient partout. Et voilà, on a eu la chance, effectivement, de rencontrer des gens incroyables, dont le Dalai Lama, avec qui on a passé 3 jours. Et j'étais avec mon amie Gwendoline Hamon, on avait 18 ans, on ne pouvait pas parler, on était fascinés par sa présence et son... C'était extraordinaire, vraiment.
Alors, c'était un très beau moment, cette rencontre avec le Dalai Lama, jusqu'au moment où il avait dit, enfin, Dalai, cet orange, c'est pas possible, c'est dégueulasse. il faut inventer autre chose. Et là, il veut dire, c'est pas possible, je suis obligé de rester comme
Regardez ces deux couleurs qu'il mélange, cet orange, ce pourpre, c'est sublime d'ailleurs.
Mais est-ce que tous ces voyages que vous avez faits sont la principale source d'inspiration
oui.
aujourd'hui ?
Oui, totalement.
Jean-Charles de Castellaja, qui préface votre livre « Couleur Sarah ouais. », parle carrément de « Sarah-thérapie ».
C'est pas
c'est-à-dire
mal,
que,
ça.
C'est-à-dire que vous pensez que les couleurs nous font du bien ?
Oui, effectivement. Après, dans les différentes... Au Japon, j'ai travaillé au Japon, ils sont très, beaucoup plus calmes sur les couleurs. Il y a une vraie signification sur les couleurs. Donc, c'était plus compliqué de leur imposer.
Ah oui, on ne peut pas utiliser n'importe quelle couleur parce qu'elles ont une signification.
Au Japon, pas du tout. Mais c'est vrai que Jean-Charles a écrit ma préface et c'était vraiment sympa qu'il le fasse.
Oui,
et
vous donc, parlez la du Sarah-thérapie. Japon. Oui, vous parlez du Japon parce que vous avez ouvert une boutique... Enfin, vous avez décoré une boutique,
un restaurant,
elle boutique. Et ça a été une expérience incroyable pour vous, la découverte du
Japon. Moi, j'adore. J'ai un pays... Je rêve d'emmener mes enfants. Je rêve d'aller à Naoshima. Je ne sais pas si vous connaissez Naoshima, cette île musée, peut-être par Tadao Ando.
Non, je ne connais pas
Mathieu,
Naoshima.
Mathieu, il faut un peu voyager, il faut un peu regarder ce qui se passe ailleurs.
Mais bon, je suis juste allé à Tokyo, je suis désolé.
Et Tadao Ando, l'architecte, vous connaissez ?
Pas du tout.
Ah non, c'est pas vrai.
Mais c'est si, c'est vrai, je suis nul. Non. Si, il faut, vous avez plein de trucs à m'apprendre.
Ouais.
On finit cette émission, puis ensuite, on passe un moment. Voilà, dans cette deuxième heure qui s'annonce, deux questions. Le Beaujolais est-il bon pour la peau ? Et l'escrime peut-il être une thérapie ? Et on n'a pas encore commencé l'apéro. Mais tiens, Eva, il semblerait qu'il soit à 17h sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage et peut-être qu'après cette formation accélérée en bon goût que m'offre aujourd'hui notre invitée, la célèbre décoratrice Sarah Lavoine, peut-être que la prochaine fois que je donnerai mon avis sur une couleur de tapisserie, ma compagne ne s'exclamera pas
« J'en ai rien à foutre !»
Sarah Lavoine, on s'en en fait de votre dernier livre. Ça, c'est mon quotidien, vous voyez.
C'est vrai. Mais...
Couleur Sarah, un beau livre aussi, je le disais, en forme de guide pour nous aider à harmoniser les couleurs de nos intérieurs. On continue d'en parler. Le temps de vous présenter nos deux derniers journalistes en compétition aujourd'hui pour le titre de chroniqueur du jour. Alors, à ce stade, je devrais vous annoncer le thème de la prochaine chronique, mais je crois qu'il me faut avant tout poser une question éthique à Eva Rock. Une rédactrice en chef peut-elle vraiment abuser de son pouvoir pour obliger une journaliste à traiter un sujet qui relève plus en réalité, comment le cacher, de la satisfaction d'un fantasme personnel que du devoir d'informer ? En tout cas, Eva a commandé un sujet sur, tenez-vous bien, les bains de Beaujolais au Japon.
Voilà, voilà, voilà.
Voilà, voilà, voilà. Bonjour Sophie Larmoyer, vous n'étiez pas obligée de dire
bonjour,
oui.
Bonjour
hein.
Mathieu. Mais avec plaisir en fait.
Alors, vous nous direz si c'est une légende ou pas, si on prend vraiment des bains de Beaujolais
au Japon.
On va
faire une sorte de vrai-faux.
Ah, un petit vrai-faux. À ses côtés, Sarah Lavoine, il fait partie des derniers mecs bien. Un homme de valeur.
L'amour, l'attachement, le câlin, oui. Le sacré, la justice.
Oui, n'en faites pas trop non plus. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu. Bonjour à tous.
Vous êtes notre expert sport et cet après-midi, vous nous parlez des vertus thérapeutiques oui. du sport. C'est bien ça ?
Oui, alors d'un sport spécifique, oui, c'est l'escrime. Comment l'escrime, cette pratique de l'escrime, peut-elle participer d'une thérapie pour les femmes qui ont subi des violences sexuelles, principalement les femmes, pas seulement les femmes, ça s'adresse aussi aux hommes.
Vous allez... Et pourquoi l'escrime plus qu'un autre sport ?
Justement, tout cela,
d'accord.
Vous allez l'apprendre.
Vous allez nous dire.
Découvrir.
Merci Jérôme. Alors, l'escrime thérapeutique ou les bains de Beaujolais pif, quel sujet aura les faveurs de nos auditeurs et de notre invité ? Réponse juste avant 18h. En attendant, je me tourne justement vers notre invité, la marque Sarah Lavoine, vous connaissez forcément. Sarah Lavoine, vous êtes une des décoratrices d'intérieur les plus cotées au monde, mais nos auditeurs aussi ont du style, si vous l'êtes. Écoutez.
Moi, j'aime les objets pour ce qu'ils sont et pour leur vie.
Cocooning, un peu de bois, un peu de fourrure aussi là, pour l'hiver qui arrive. Et surtout, ouais, du doré et du vert.
J'ai une table de marbre, j'ai un piano à queue.
Les meubles, les beaux meubles, les vieux meubles.
Abricot, rouge, des couleurs très très vives.
Je fais surtout attention aux lumières. Pour avoir une lumière tamisée, chaleureuse, sympathique, et je crois que c'est le plus important.
Moi, il y a des fauteuils chez moi, et il y a une table façon chelou.
Je fais une collection d'éléphants, pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
C'est la vrai table que... chelou et la collection d'éléphants.
En matière de déco, chacun croit avoir ses idées, mais finalement, ces idées, est-ce qu'elles ne sont pas façonnées d'en haut par les gens comme vous, Sarah Lavoine ?
Oh, je pense qu'on est peut-être un peu inspirant. Mais après, on a chacun son libre arbitre et on aime les choses. Oui, on peut. Moi, je m'inspire beaucoup de plein de gens. Hier, j'étais voir Charlotte Perriand à une exposition.
Ça vous a aussi donné des idées.
Ah, c'est extraordinaire, extraordinaire.
Vous disiez que vous n'aimez pas le mot de tendance. Est-ce que il y a aussi des mots comme ça qui reviennent ? On l'a entendu dans le petit micro trottoir. Le cocooning, la tendance du cocooning. Ça, c'est une belle connerie pour vous ? C'est...
Non, non. Bon, j'aime sens. Pas forcément ce
non.
mot.
Non. Ouais. Ouais. C'est pas.
Mais j'aime me sentir bien chez moi.
Oui, c'est tout simple. Voilà. C'est, ouais. On invente des mots qui veulent dire des choses assez simples. On parlait tout à l'heure de la chromothérapie, le soin par la couleur, parfois utilisé en médecine douce pour améliorer le mental. Est-ce que ça, vous y croyez ? Est-ce que vous-même, vous vous soignez par chromothérapie ?
Oui.
D'ailleurs, ça consiste en quoi ? Mais... Vous regardez du verre. Oh, ça me fait du bien le verre. Comment ça marche?
Non, en ce moment, je suis très vert, effectivement. La nature, le verre, c'est la nature. Tous les verres sont dans la nature.
C'est pas faux, vert comme mes yeux, Sarah Lavoine.
Exact.
Ouais, ouais, je fais des moments de radio.
Ils sont pas bleus?
Non, pas du tout, ils sont verts, mais on se rapprochera tout à l'heure. Eva, sortez-moi de là, Eva, je suis en train de m'égarer sur les sentiers de la drague. Allez-y.
Non, mais est-ce que, non, mais plus sérieusement, vous pouvez revenir sur ce concept de chromothérapie, comment ça fonctionne en fait?
Il y a des chromothérapeutes.
J'ai une posologie chromatique, c'est ce que dit Jean-Charles de Casper-Jacques dans mon livre. Voilà. Et on peut se faire du bien avec des couleurs, oui.
Et quelle couleur fait du bien? Ça dépend de chaque personne?
Ça dépend de chaque personne, bien sûr.
Vous, quelles couleurs vous font du bien?
Moi, mon bleu me fait du bien, le noir me fait du bien, parce que c'est pas triste, le noir, c'est très apaisant. Et je vous disais, le vert en ce moment.
Ouais, mais ça, je veux dire, vous avez bien raison. Est-ce qu'il y a des couleurs, en revanche, que vous n'aimez pas, qu'on ne verra jamais, qui ne sont pas dans votre livre?
J'aime pas le saumon.
Le saumon. Je regarde vite fait si j'en ai pas. C'est bon, je n'ai pas de saumon sur moi. Le saumon, c'était pas une couleur que vous aimez. Alors, toutes les déclinaisons de rose?
Non, le saumon, c'est pas rose.
Oui, bon, je vous en prie, le saumon, c'est quand même un peu rose.
Oui, c'est plus orangé, non, mais bah, c'est vrai, ça se rapproche plus du corail.
Vous êtes daltonien.
Que...
C'est vrai, c'est plus corail. Bon.
Oui, attendez, ça, c'est une vraie question.
Daltonien.
Non, non, mais quand vous êtes avec vos clients, on sait très bien que, vous savez, on a ces petits tests parfois sur Internet où les gens vous disent de quelle couleur est la robe et les gens ne voient pas la robe de la même couleur. Est-ce que ça vous arrive avec des clients où vous dites, là, ça va être très compliqué parce que je sens qu'on ne voit pas la même couleur?
Ouais. Oui, surtout, ça va être très compliqué parce qu'on n'a pas le même goût.
Comment vous faites dans ces cas-là?
Eh bien, je reprends mes cours de psycho et j'essaie de leur faire passer ce que je veux.
Ah oui, quand même.
Mais voilà, vous voyez que vous êtes une influenceuse. Et d'ailleurs, je vais vous faire une révélation. Moi, votre bleu, je le vois vert.
Ben, il est. Ce que je dis, il est ni bleu ni vert.
D'accord, bon.
Donc,
je croyais avoir un scoop.
Il est les deux.
N'ayez plus peur, en tout cas, des couleurs. Sarah Lavoine passe l'après-midi avec nous.
Europe 1.
À suivre, nos journalistes ont beau être des professionnels aguerris, certains sujets sont plus difficiles à défendre que d'autres. Axel de Tarlet, hier, en a fait les frais devant Elie Semoun avec son papier un peu trop optimiste sur les bonnes intentions écologiques d'Airbus.
Et le 21e siècle, vous voyez, est très beaucoup plus doux.
Vous croyez vraiment à ce que vous dites là?
Non, mais...
Non, il fallait le tenter, quoi. On souhaite donc bonne chance à Sophie Larmoyer, l'expert géopolitique d'Europe 1, pour son sujet à venir sur les vertus dermatologiques des bains de Beaujolais au Japon. Surtout, restez avec nous.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures d'une chevauchée dangereuse mais excitante sur les terres du savoir et sous l'œil frémissant de notre invitée, la décoratrice star Sarah Lavoine, entre à présent en piste notre 3e journaliste en compétition cet après-midi, Sophie Larmoyer. Sophie, vous êtes notre expert international. On savait déjà, depuis une funeste reprise des Village People, que le Japon et l'alcool ne faisaient pas bon ménage. Mais là, nos amis japonais ont décidé d'aller un cran plus loin dans le n'importe quoi, ou auraient décidé, car il s'agit peut-être d'une légende urbaine, vous allez nous dire, certains japonais fans de Beaujolais ne se contenteraient pas de le boire, mais ils iraient jusqu'à prendre des bains dedans. À l'occasion de la sortie du Beaujolais nouveau, vous avez décidé d'enquêter.
Oui, et cette photo, vous l'avez peut-être déjà vue, je vous la passe, je la décris pour ceux qui ne la voient pas.
Ce n'est donc pas une légende.
C'est donc pas une légende, ce sont des Japonais, peut-être un 3e jeudi de novembre, dans une petite piscine intérieure extrêmement rouge. Il y a des tonneaux en décoration, l'eau est rouge, et puis il y a un monsieur qui verse le contenu d'une bouteille dans le bain. C'est bien un bain de vin rouge, paraît-il. C'est du Beaujolais, mais je ne suis pas allée vérifier. Il paraît que c'est bénéfique pour la peau, c'est ce qu'on dit.
C'est ce qu'on dit, mais est-ce que c'est vérifié?
Alors ça, moi, j'en sais absolument rien. Mais en tout cas, les gens se baignent dans du vin. Ça, c'est vrai. Alors,
ah oui,
ils le boivent parce que ça n'est pas que du vin. C'est là où on fait un petit vrai-faux, comme je vous disais tout à l'heure. C'est un mélange d'eau thermale, de colorant rouge et d'un petit peu de vin. Donc, il ne faut évidemment pas boire ce mélange.
Oui, parce que j'allais vous dire, pour remplir une piscine entière de Beaujolais, je sais que le Beaujolais nouveau est accessible niveau prix, mais pour remplir la piscine, ça fait quand même un sacré budget.
Non, en fait, c'est une attraction, évidemment, dans certains spas du Japon. Toute l'année, ces spas proposent des bains au vin. Et fin novembre, pendant quelques semaines, c'est donc du Beaujolais nouveau. C'est un mélange. À un moment donné, il y a un employé qui vient, qui verse 2-3 bouteilles et tout le monde se précipite en dessous pour avoir du Beaujolais. Peut-être que là, on peut essayer de boire un petit peu, mais c'est tout. Il ne faut
ça
pas boire,
l'idée
sinon...
Ça me donne l'idée d'un week-end team building qu'on pourrait faire. Une semaine team building, toute l'équipe de l'équipe est sauvage.
Ce qui est plus intéressant, Mathieu.
Eva n'a pas l'air d'accord.
Le team building dans le vin rouge.
Ouais.
Bah si, il faut aller aux sources de Canali. Mais c'est vrai. Tous les produits sont faits à base de vin, de pain.
C'est vrai, revenons à l'essentiel.
Ce qui est intéressant, en fait, c'est que le Japon, vous savez, c'est une zone volcanique, il y a des sources chaudes, et il y a une vraie culture
du onsen,
absolument, ce sont ces grands spas, ou du sento, qui sont les bains publics. Mais vous rigolez, mais c'est exactement ça.
Non, je ne rigole pas, parce que je pense à une anecdote personnelle.
Ah bah, vous me racontez ça tout à l'heure. Oui. En tout cas, c'est très courant d'aller au bain public. Dans les spas un peu plus chics, c'est même une sortie où on peut inviter les gens, etc. Et il est très très fréquent que ces établissements proposent des bains aromatisés. Donc, au vin, mais pas seulement, au thé vert, au chocolat, au café, aux agrumes, au saké aussi.
Ah, ça me parle plus.
Voilà,
ah,
oui, c'est ça le fond de l'affaire, c'est que la photo dont on parlait tout à l'heure, c'est un bain aromatisé parmi d'autres, et c'est pas uniquement pour le Beaujolais. Voilà.
Sophie, je vais vous raconter une petite anecdote pour nos amis qui iraient au Japon. Si vous allez dans les onsen, je n'ai pas fait de onsen au Beaujolais, mais j'ai essayé parce que dans le guide touristique, il disait qu'on pouvait creuser dans la rivière et en creusant dans la rivière, on allait trouver l'eau chaude. Mais j'ai creusé toute une après-midi, j'étais vraiment ridicule dans mon petit caleçon. Il n'est jamais arrivé, j'étais complètement gelé et j'ai dû finir par payer très cher pour aller dans un onsen privé où là l'eau était très chaude et très très bien. Mais donc, dans les guides touristiques, il faut réécrire tout ça. C'est pas vrai qu'en creusant, on trouve de l'eau chaude, ou alors il faut creuser avec une pelleteuse, mais je n'avais pas ça sous la main. Sarah Lavoine, ce petit sujet, pour vous poser une question sur les vertus dermatologiques de certains produits. Alors le Beaujolais, on se doute que c'est un peu une connerie, mais dans la mode en général et dans la cosmétique, on a l'impression que chaque semaine, il y a des nouveaux produits qui sortent à l'essence de pulpe, de caviar. Enfin, est-ce que tout ça a une valeur, vous qui êtes une femme, qui est une icône de la déco, mais aussi de la mode, j'imagine que vous êtes suivie sur Instagram par des milliers de femmes. Est-ce que vous croyez à ces trucs-là ou c'est du vent, toutes ces crèmes là?
Non, moi je n'y crois pas du tout. Moi je suis très basique, une bonne crème Nivea ou une crème de pharmacie. Enfin non, les crèmes qui valent Watt 1000 et tout ça, non. C'est pas
voilà, toutes les crèmes qu'on essaie de nous vendre à des prix pas possibles.
Non.
Eva?
Ce qu'on n'a pas dit encore avec Sarah, c'est qu'au-delà de la décoration, vous faites aussi de la mode, vous lancez aussi dans l'hôtellerie.
J'aimerais. C'est le prochain rêve.
C'est vrai?
Ouais.
C'est-à-dire ouvrir des hôtels un peu partout dans le monde ou décorer par Sarah Lavoine?
Mes propres hôtels. Ouais. Ça, oui. Mais pour l'instant, oui, on a lancé la mode prêt-à-porter et je suis très contente, ça se passe très bien. Donc, sans imaginer devenir une marque de mode, au contraire, mais une marque globale que nous sommes de lifestyle.
C'est quoi? C'est une marque minimaliste en fait. Hein. Enfin, vous avez quelques pièces, c'est ça que vous déclinez?
Oui, on a une vingtaine, trentaine de pièces. C'est mon vestiaire, c'est mes collections, c'est ce que j'aime.
Et toujours rien de fabriqué en Chine?
Rien.
Rien. C'est l'engagement, Sarah Lavoine. Vous restez avec nous.
Europe 1.
À suivre, quand on discute avec Eva Rock, il y a des choses qu'on ne veut pas savoir, peut-être parce qu'on est trop sensible ou trop prude pour les entendre.
Attends, si je te dis ce que j'ai fait samedi soir.
Non, mais par exemple. Mais il y a une question qu'il faut lui poser en revanche parce qu'elle s'y connaît vraiment, c'est qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir? Réponse juste après Lily Allen. Smile sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, c'est 2 heures de bonne humeur, d'allégresse informative, mais surtout d'une féroce compétition entre les meilleurs journalistes de la station qui se battent à coups de chronique pour savoir lequel d'entre eux sera digne de notre précieuse couronne de chroniqueur du jour. Une couronne qui fascine même nos invités, comme Élisée Mounière.
Elle est dégueulasse. Ah non, franchement, je me battrais pas pour un truc comme ça.
Bon, Sarah Lavoine, vous qui aimez le beau, finalement, vous êtes séduite par cet objet.
C'est magnifique.
Mais peut-être qu'on pourrait envisager une collaboration.
Avec plaisir.
Vous pourriez peut-être nous dessiner une couronne un peu plus belle
classe,
que celle-ci.
Hein. Ah ouais.
Ça serait très très classe.
Ah bah oui.
Ah oui, ça va coûter cher à Arnaud Lagardère qui est passé nous faire un petit coucou. On l'embrasse.
Mais arrêtez de dire que c'est cher.
Mais non, vous nous ferez un prix en tout cas. Mais qui commence à négocier en direct. Alors, Sarah Lavoine, dans votre livre Couleur Sarah, plein d'idées déco pour la maison, un beau livre aussi tout simplement à placer sur la table basse du salon, ce que je ne manquerai pas de faire pour montrer que je suis chic. Une question simple, qu'est-ce qu'on fait d'une télé aujourd'hui dans un intérieur?
C'est pas joli
la télé, parfois on essaye de la cacher, parfois on n'en met pas, ça a été mon parti pris pendant longtemps. Aujourd'hui, j'ai une télé, vous savez, les télés soi-disant invisibles, là. Les espèces, on dirait un tableau, elle devient un tableau et en fonction de la couleur
du jour, ça
marche pas mal. Par moment, le truc part en couille et donc, tout à coup, on dirait qu'elle est rétroéclairée, on voit que c'est une télé, mais par moment, c'est parfait.
Mais sinon, tu peux mettre les photos, ça, c'est cette télé-là?
Non, je ne mets pas les photos, ça c'est cheap, mais on peut mettre des tableaux qu'on choisit. Quelle est votre préconisation pour la télé dans une maison?
Éviter, si possible, dans un salon, parce que c'est pas terrible, mais sinon, un mur noir, comme ici.
Sur un mur noir, ça passe mieux.
Bah oui, ça passe mieux, on la voit pas.
Ah, c'est pas bête, ça, avoir un petit mur noir sur lequel mettre la télé.
C'est plus simple.
Elles se font dans le décor. C'est pas con du tout, ça. Vous auriez dû être décoratrice. Alors justement, par le télé, selon une étude de l'université d'Oxford, on perd tous désormais 17 minutes en moyenne chaque jour à s'engueuler avec son conjoint pour savoir ce qu'on va regarder sur Netflix ou les plateformes. Eva, Heureusement, il y a vous. Et votre chronique, 17 minutes de gagner. Et j'interdis, je le dis tout de suite, j'interdis à mon réalisateur de se foutre de ma gueule parce que j'ai raté mon lancement. Ça, c'est interdit. On a le droit, personne n'est parfait.
Mais
17
c'est vrai,
minutes de
mais
gagner,
c'est, bien, en plus,
c'est votre chronique, Eva Rock.
C'est bien de savoir que vous êtes imparfait.
C'est vrai. Voilà. Bah ça, je crois que de ce côté-là, je suis au courant.
Bon, je ne vais pas vous faire rire, mais c'est un sujet extrêmement important dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors que s'achèvera lundi le Grenelle des violences conjugales et que ce 25 novembre sera également la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, M6 propose la veille, donc 10 dimanche, une grande soirée spéciale sur ce sujet à travers leurs trois magazines d'information, en l'occurrence 66 minutes, Zone interdite et Enquête exclusive. Documentaire choc à 21h notamment, avec une enquête qui a été réalisée alors auprès des victimes, mais aussi des forces de l'ordre, des magistrats et des hommes coupables de violences conjugales. Extrait d'un dialogue entre Cynthia, elle a 33 ans, et une policière.
Il a regretté son geste ?
Je pense, oui. Toujours aussi, et il s'excuse tout le temps, non, j'avoue, il s'excuse tout le temps, je suis désolée, mais il y a un petit peu... Cette phrase qui dit que tu l'as un peu mérité, tu m'as poussé un peu à bout. Pour...
C'est là où ça commence à être très problématique. Il faut vraiment retenir que ce point-là, vous êtes victime. Vous l'aimez ?
J'ai un petit quelque chose pour lui, oui. Ce qui fait qu'à chaque fois, je retourne comme une conne, c'est vrai.
J'ai trouvé que dans cet extrait qui est très court de quelques secondes, en fait, il y a toutes les problématiques auxquelles on est confronté quand on est une femme victime de violences conjugales. C'est un documentaire très complet qui a un atout principal qui est celui de montrer en fait d'abord la diversité des profils des victimes et puis le phénomène d'emprise que les hommes exercent sur elles parfois pendant de longues années, des femmes qui sont prises dans une spirale infernale qui sont souvent très démunies face à la faiblesse en fait des réponses des autorités publiques. Ça commence à être pris en charge, mais on sent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet. Après ce premier film, M6 va diffuser un autre documentaire sur Bertrand Cantat. Le producteur a récupéré l'interrogatoire de l'artiste lorsqu'il a été auditionné par la justice lituanienne 3 semaines après la mort de Marie Trintignant. Alors je vous le dis très sincèrement, je n'ai pas pu voir ce film pour l'instant. Mmh. Il sera diffusé dimanche en deuxième partie de soirée. Donc je ne peux pas vous dire si c'est choquant ou pas de voir les auditions de Bertrand Cantat.
On n'avait jamais
vu ces images. Non. Alors la seule chose que j'ai compris, c'est qu'ils veulent le diffuser parce qu'on comprend quel est le mécanisme de défense aussi des hommes qui sont coupables de violence. Voilà, c'est souvent la même rengaine.
C'est toujours le même.
Voilà, donc ils veulent montrer ça. Reste quand même la réalité, je vous le rappelle, 220 000 femmes en France subissent chaque année des violences conjugales. Les premières victimes collatérales sont les enfants. Et puis il y a ce chiffre qui est effrayant. Depuis le début de l'année, 136 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Il y a une grande manifestation samedi d'ailleurs, à l'appel de plusieurs associations pour...
14h à l'Opéra.
Exactement. Vous y serez, Sarah Lavoine ?
J'y serai.
Oui ? Ouais. C'est un sujet qui vous touche ?
Oui, bien sûr. Oui. C'est un sujet terrible, donc oui. Bien sûr, j'y serai.
Vous nous rappelez, Eva ?
Oui, alors c'est dimanche soir sur M6, c'est toute la soirée en fait. Hein. Voilà.
Merci beaucoup, et ben voilà, 17 minutes de gagner. Merci Eva Rock.
Europe 1.
À suivre, le sport peut-il vraiment avoir des vertus thérapeutiques ? Enquête de Jérôme Lacroix, un journaliste consciencieux mais un peu opportuniste. Prêt à tout pour plaire au patron, il n'a pas hésité à me dire un jour où, faute de temps, j'étais venu bosser avec un jean jauni et des chaussettes dépareillées.
T'as du style !
Oui, c'est ça, et ce matin, en me regardant dans la glace, je me suis dit que je ressemblais de plus en plus à vous savez qui ?
Robert Redford.
Oh, maillot !
L'équipe est sauvage, 16h-18h. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, la grande battle journalistique d'Europe 1 continue. Compétition supervisée aujourd'hui par la célèbre décoratrice Sarah Lavoine qui essaye de nous inculquer les bases du bon goût, mais c'est pas gagné, pas vrai Gégé ?
J'aime bien les Boys to Men.
C'est QFD. Justement, Sarah, je vous présente notre dernier prétendant à la couronne cet après-midi. Longtemps, avec le neuropsychiatre qui le suit à Sainte-Anne, on se demandait pourquoi est-ce que dans ses rêves, la nuit, il hurle souvent
« Diego, Diego !»
en faisant des moulinets de la main avec une épée imaginaire, qui est en fait souvent la télécommande du goutte à goutte. Eh bien, on a enfin compris, il se prend pour Zorro.
Un cavalier.
Défenseur de la veuve, de l'orphelin et même des animaux de compagnie.
Il y a des petits minous qui ont de la chance.
Jérôme Lacroix.
Il me ressort les petits minous.
Ce lancement potache est parfaitement adapté, ou parfaitement inadapté plutôt à la situation, puisque vous nous parlez aujourd'hui d'un sujet éminemment sérieux. Vous prenez la suite d'Eva Rock, qui nous en parlait dans sa chronique télé lundi prochain. C'est la fin du Grenelle contre les violences faites aux femmes. Près de 3 mois de réflexion, de débat pour tenter de mettre fin au fléau des violences conjugales, mais aussi des violences sexuelles. Vous nous parlez aujourd'hui de ces ateliers sportifs singuliers destinés aux victimes de violences sexuelles.
Oui, alors on est dans le 15e arrondissement de Paris, dans une salle d'armes. C'est le lieu où on apprend l'escrime, un cours pour adultes en apparence classique, sauf que les participants, surtout des participantes d'ailleurs, elles veulent pas vraiment dire qui elles sont. Il n'y en a pas besoin d'ailleurs. Elles sont en parcours de soins. Elles sont en reconstruction après avoir subi, souvent très jeunes, des violences sexuelles. Je vous parle cet après-midi de ces ateliers uniques au monde quand l'escrime participe d'une thérapie au cœur, bien sûr, d'un parcours de soins. C'est une dizaine de séances de 4 heures chacune, une fois par mois pendant 8 mois, en petits groupes non mixtes. Et c'est une création de l'association Stop aux violences sexuelles. Et après plusieurs années de recul maintenant, eh ben on sait que ça fonctionne. Alors pourquoi ? Pourquoi l'escrime ? Il y a d'abord une notion compréhensible d'évacuation de la colère par le combat. Une colère enfouie après ce traumatisme, hein, c'est l'envie d'en découdre avec son agresseur.
Mais simplement. Pourquoi l'escrime, ça pourrait être la boxe ?
Alors non, en escrime, il n'y a pas de contact direct avec l'opposant. L'escrime, c'est le sport de la mise à distance. Il y a aussi l'équipement. En escrime, on a une tenue complète. On peut être anonyme de la tête aux pieds. Il y a des collants, il y a une veste résistante, renforcée d'une armure. Il faut savoir, c'est aussi résistant qu'un gilet pare-balles, hein, pour en avoir porté, déjà, je peux vous le garantir. Et puis, bien sûr, il y a le masque d'escrime. Alors, ce masque, ça, c'est vraiment surprenant. Les acteurs de ces séances vous racontent, selon les cas, le masque rassure, c'est-à-dire ça renforce l'anonymat, et pour d'autres, au contraire, c'est oppressant, on se sent enfermé dans ce masque, donc c'est négatif, mais les formateurs transforment ça en énergie positive.
Donc, le but de ces ateliers, c'est avant tout de faire ressortir les émotions.
Voilà, toujours sur le masque. L'adversaire aussi porte un masque. On peut imaginer n'importe qui en face. Mmh. Beaucoup de participants projettent l'image de leur agresseur, qu'ils ont à ce moment-là envie de tuer. Le mot n'est pas trop fort dans ce contexte émotionnel totalement à fleur de peau. Alors ces séances, elles sont animées par un maître d'armes, donc formé spécialement, épaulé de kinés et de psychologues aussi. Parce que parfois, l'afflux d'émotions, il est tel pour les victimes. Certaines fondent en larmes, font des malaises. C'est ce qu'expliquait il y a peu, lors d'une conférence, Boris Sanson, co-créateur du projet, ancien champion olympique d'escrime.
Dès qu'il y a quelque chose qui va se passer, dont on n'avait pas prévu, ça va exploser. Surtout que là, il y a des charges émotionnelles qui sont vraiment très violentes, qui sont de l'ordre du meurtre. Donc là, on doit s'adapter. Le maître d'armes récupère la personne qui est là et va lui faire sortir son énergie meurtrière. Crier, taper très fort. Vraiment, sur l'escrime thérapeutique, on n'est vraiment pas sur l'envie de gagner et de battre son adversaire et d'être plus fort et de gagner des médailles. Alors, c'est gagner sur eux et on est plutôt vraiment tourné vers l'intérieur.
Alors, porter l'estoc avec une arme, bien sûr, qui devient le prolongement du corps meurtri. Alors justement, le choix de l'arme. Il y en a trois en escrime, hein. Il y a le fleuret, il y a l'épée, il y a le sabre. Alors ici, c'est le sabre qu'on va utiliser parce que dans la pratique, alors je ne rentre pas trop dans les détails, le sabre, c'est l'arme la plus agressive pour toucher, la plus dynamique, la plus instinctive aussi. Oui. Alors on peut vraiment se défouler. Ces séances, elles sont payantes. Il y a beaucoup, beaucoup d'aides de subventions. C'est de 15 à 110 euros selon les revenus de chacune ou de chacun. Et à la fin de ces séances, à chaque fois, il y a des discussions collectives. Et puis, il y a aussi un petit carnet dont chacun des membres du groupe va noircir les pages. Chacun écrit, raconte, dessine, griffonne ce qu'il a envie de griffonner, comme la somme en fait, de ce cocktail d'émotions, toutes douloureuses mais salvatrices.
Hyper bien.
Merci,
Jean-Marc. Ça devrait être remboursé par la Sécu. Oui.
Visiblement, il y a des aides, en tout cas.
Oui, il y a des subventions.
Sarah Lavoine, vous pensez que c'est une bonne idée
Je suis sans voix. bien sûr, c'est une bonne idée. Tout est important. Et donc, si on peut aider ces femmes par l'escrime ou par. C'est très bien.
Moi, je suis pessimiste quant à la possibilité de changer l'homme, la nature de l'homme. Mais en revanche, c'est toujours réjouissant de voir que des initiatives comme ça, que des gens aient cette idée, ne serait-ce que rien que l'idée d'avoir pensé que l'escrime pouvait servir de thérapie, je trouve ça formidable. Merci Jérôme Lacroix. Aurez-vous porté les stocks avec votre chronique ? Nous le saurons juste avant 18h.
Europe 1.
À suivre dans l'équipe sauvage, on est peut-être des brels en déco, mais question gastronomie, là, on s'y connaît.
Ah oui.
Chaque jour, lorsqu'il vient nous présenter Délice in Extremis, sa recette de dernière minute, notre cordon bleu, Olivier Pousse, le sait, il parle à des fins gourmets, notamment l'exigeant Gégé, qui dans sa jeunesse a même hésité à devenir chef.
À une époque, j'étais tellement maillot que j'en mettais même sur les pizzas.
Oui, heureusement, il a choisi le journalisme.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. Paix sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, vous le savez, c'est une émission hybride à la croisée du journalisme et du divertissement où l'on essaie de traiter sur un pied d'égalité votre cerveau et vos zygomatiques. Mais c'est aussi une rencontre. Rencontre avec un invité, une personnalité qui repart souvent ravie d'Europe 1. Et parfois, disons, un peu moins ravi quand, par exemple, un quiproquo surgit dans l'émission durant une coupure pub. Je donne des consignes à la régie. L'invité, en l'occurrence Elise Moon, croit que je suggère qu'on diffuse une des chansons de son album Bossa Nova. Alors qu'en fait, pas du tout, je calais juste un extrait sonore. C'est ce qu'on appelle pour l'invité un ascenseur émotionnel.
Mais sa musique à la place de la mienne. C'est lui le maestro, pas moi. Hein. Oui, tu m'enlèves.
La musique, un de mes titres.
Pardon ?
Non, rien.
Ah non, non.
Oui, on aurait pu, et bah, comment s'enfoncer encore plus?
Non, j'ai essayé de sauver la situation.
Oui, bah vous l'avez empiré. Vous l'avez empiré, on embrasse Elise et Moon. Et c'est vrai qu'on aurait pu diffuser.
Non, mais c'est vrai, en plus.
C'était hyper sympa, son album Bossa Nova. Oui, vraiment, on est vraiment des ordures. Oui. Aujourd'hui, c'est la reine de la déco, Sarah Lavoine, qui nous accompagne à l'occasion de la sortie d'un livre, Couleur Sarah. Une question un peu perso, mais aussi business, ma chère Sarah.
Oui.
Longtemps, vous avez été Sarah Lavoine, c'est le nom de votre maison, de votre marque. Mmh. Vous êtes construit une notoriété mondiale avec ce nom. Mmh. Et sur la couverture du livre, vous avez choisi d'indiquer aujourd'hui Sarah Poniatowski-Lavoine. Est-ce qu'il est possible que dans l'avenir, la maison Sarah Lavoine devienne la maison Poniatowski, ou prenne un autre nom en tout cas?
Oui, il est possible dans l'avenir.
C'est à l'étude.
C'est à l'étude, exactement. Nous allons en discuter.
Vous êtes une businesswoman, ça on peut pas le dire, mais vous êtes apparemment aussi très tribu. Vous adorez la convivialité, la vie de famille. Comment on fait pour être aujourd'hui, en 2019, chef d'entreprise et à la tête d'une tribu comme ça?
C'est la force des femmes, mon cher Mathieu.
Ah bah pourquoi? On est nuls pour ça? Oui, c'est vrai qu'on est nuls pour ça.
Nous sommes multitask, on s'occupe de nos enfants au travail, on s'occupe de nos amis, de nos maris. Voilà, on est capable de plein de choses, je pense, plus que les hommes.
Eva Rock.
Quand vous étiez adolescente, vos parents, vous avaient quelle ambition pour vous? Ils vous imaginaient dans quelle profession? Vous en souvenez ou pas?
Pas du tout, en fait. Ils ne m'ont pas poussé vers des études plus que ça. Ils auraient peut-être aimé, mais je n'ai pas souvenir qu'on m'ait poussé à ça. Je pense que c'est vraiment moi qui ai été assez autonome jeune. Je suis partie vers 18 ans, 19 ans de chez moi. Et j'ai essayé plein de choses.
Vous rêviez comédienne, c'est ça?
Je me rêvais comédienne, ouais. Mais je travaillais au Figaro, j'étais lectrice aussi. Enfin, j'ai fait plein de choses. Donc, un petit coup de la philo et de la déco un jour.
Comment vous expliquez ce succès incroyable qu'est le vôtre dans la déco? Parce que des idées déco, il y a quand même plein de gens qui ont des idées de déco, qui ont
comme
du goût.
Comme la cuisine, ça, c'est pareil.
Comment on peut se singulariser à ce point? C'est vrai que la marque Sarah Lavoine, aujourd'hui, c'est devenu quand même quelque chose.
Oui, on est en pleine croissance, on développe, mais j'ai des super équipes, surtout. Donc, je travaille
Vous avez su
seule.
Vous entourer?
Ouais.
C'est peut-être mon problème, moi.
Oh, mais dites. Oh, mais qui
c'est plaisant,
j'ai une moitié, mon mari de la journée, comme on l'appelle, qui est formidable et je n'aurais jamais développé sans lui.
Votre sœur, Marie, dit dans une interview que si vous étiez une période de l'histoire, vous seriez la Révolution française. Pour une princesse, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Étrange, une princesse rebelle, alors.
Écoute, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a dit ça, mais ça me plaît.
Elle l'a dit en 2016 à Madame Figaro. Ah. Elle disait, pour être précis, la Révolution française ou les années 80.
Ah, on va comprendre.
Vous avez une nostalgie des années 80 ou
Non, pas du tout.
Trop.
Non.
Question bon goût dans les années 80, on a fait quand même 2-3 fautes.
Hein. Oh, oui, c'est ça.
On est d'accord.
Même en musique.
Même en musique. Oh, je sens que je deviens un homme de goût à son contact. Sarah Lavoine nous accompagne jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, ma chère Sarah, votre sœur Marie, toujours elle, dit que si vous étiez un plat, vous allez découvrir ça aussi, vous seriez une fondue. Au fromage.
C'est un truc de famille. Ça me rend dingue. Quand je veux faire des dîners à la maison et que je veux faire venir ma fille de chez elle, qui est dans le quartier,
ou
ma
sœur,
je dis, ce soir je fais une fondue, vous venez? Oh ouais. Et je l'ai fait dimanche soir. Et j'ai réuni tout le monde parce que j'ai fait une fondue.
Et bien, toujours réactif pour sa recette du jour. Olivier Pouls vous propose une fondue, mais attention, pas de blague. Hein. La dernière fois que j'avais voulu déconner, visiblement, on ne déconne pas avec la fondue.
Qui c'est la minufile, ça mange? Alors si c'est une blague, elle est de mauvais goût. Hein.
Merci Bernard. C'est une blague de crétin, ça.
J'y suis pour rien.
Tiens, mon œil.
Ça, c'est mal.
Quelqu'un veut de mon Bordeaux?
Delicide Extremis spécial fondue arrive juste le temps qu'Eva s'équipe d'un masque à gaz et qu'on écoute Angèle, oui ou non, sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour se détendre en rentrant du boulot, même si ce retour est souvent émaillé d'un violent coup de stress quand, sur le coup de 6h moins le quart, vous réalisez que vous avez totalement oublié de penser à une recette pour ce soir.
À la boulette.
Et si votre imagination culinaire est aussi vide que le frigo des baroques?
Tu trouves de la salade, tu trouves des fleurs.
Oh la vache. Heureusement, il y a Olivier Pouls. Olivier, aujourd'hui pour nous réchauffer, quoi de mieux qu'une bonne fondue? Hein Eva?
Et oui les amis.
Je passe mon tour.
Et oui. Sarah Poniatowski, quel bonheur d'apprendre que nous avons ce point commun, une passion pour la fondue savoyarde.
Mais oui.
Alors je me suis un point commun inespéré entre vous et Sarah.
Alors je me
le prouve ce pull que vous portez. Cette couleur indéterminée.
Alors je me suis pris à rêver que nous serions tous ensemble dans un chalet, le chalet européen, voyez-vous, à la montagne, décoré par Sarah évidemment.
Ah,
on rentrerait d'une longue marche en raquette fourbue. Mathieu mettrait quelques bûches éventuellement dans la cheminée. Et puis nous nous attaquerions à la préparation de cette fondue. Parce que la préparer, c'est aussi un grand bonheur.
Est-ce qu'on se prendrait pas une petite chartreuse avant?
Éventuellement.
Avec modération, évidemment.
Un génépi.
C'est à la fin.
Non, mais Eva aurait apporté le vin blanc, le Chenin Bergeron, le magnifique vin blanc de Savoie.
Ça va sans dire.
Voilà, Sarah nous aurait apporté les fromages. Vous mettez un, deux, trois fromages. Trois fromages, voilà. Ça, c'est la bonne recette. Alors, merci. On peut mettre de l'Étiva, du Comté, un gruyère d'alpage ou du Beaufort. Voilà, le Beaufort magnifique. Donc, moi, j'aurais coupé une gousse d'ail en deux. J'aurais frotté le fond du caquelon. On aurait versé un petit verre de vin blanc, porté à ébullition.
Avec le reste de la bouteille, on aurait pris l'apéro. Ben
évidemment, bien sûr. Alors peut-être que Sophie aurait coupé les fromages en petits morceaux, on les aurait mis à fondre et puis on aurait tourné lentement, touillé avec une cuillère en bois en attendant ce moment où le fromage serait parfaitement fondu. Eva n'aurait pas oublié le pain, j'espère.
Bien sûr, je vais essayer de
voilà. manger. Un peu rassis.
Oui, parce qu'il faut, s'il est trop frais,
ça glisse délicat.
Et après, t'as un gage.
Voilà, exactement. Et puis juste avant de
servir, on va parler des gages après.
Le petit truc absolu, c'est le petit verre de kirsch, évidemment, la petite goutte de kirsch dedans.
Mais ça, je ne connaissais pas, par exemple.
Ben voilà. Voyez-vous, c'est extrêmement simple. On serait heureux, là, avec cette fondue. Et puis, bien évidemment, peut-être que quelqu'un aurait mis son fil dentaire dedans et nous aurait gâché la soirée. Mais j'espère que non. Voilà. Est-ce que ça vous va comme programme ?
Nous avons la même recette.
Eh bien, c'est parfait. J'en suis ravi. Alors, si j'ai encore 30 secondes, une petite alternative très facile aussi. Si on avait été dans les monts du Jura, on aurait fait une boîte chaude. C'est un peu la même idée.
Oh, ça, c'est bon, ça aussi.
Voilà. Donc, une belle boîte de Mont d'Or, vous savez, dans son écorce d'épicéa. On enlève la petite croûte au-dessus. On verse un petit peu de vin blanc, un petit peu de kirsch éventuellement. On la met au four pendant 30 minutes. Et quand le fromage est bien fondu, c'est parti.
C'est très, très bon, ça.
C'est ce que je demande à ma mère à chaque fois que je rentre chez moi en Suisse. La boîte chaude. Ah, si elle n'est pas là, je ne viens pas.
Vous êtes un homme de goût.
Ça
de goût raffiné. Me taisez-vous, Eva. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Mes chers amis...
Mais on n'est pas amis.
Oui, bon, mes chers collègues, c'est la dernière ligne droite. L'apothéose, l'ultime moment, le bouquet final, the final bouquet, comme disait Élisée Mounière.
Oui, bah ta gueule.
Non, non, oh, quel suspense insoutenable. Hâte de savoir qui a été élu chroniqueur du jour. La réponse ne va plus tarder.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
C'est à la fois un soulagement et un déchirement. Dans quelques secondes maintenant, nous saurons qui a été élu chroniqueur du jour, qui héritera de la couronne et de la gloire, et qui retournera dans les ténèbres de l'anonymat après une trop courte incursion sous les projecteurs.
Il a fait bip-bip, on l'a fait meuh.
La réalité, il a coulé comme un plomb. Oui, peut-être vous, Jean-Philippe Ballas. D'ailleurs, c'est le moment du qui tout double. Pourquoi notre invitée Sarah Lavoine devrait-elle voter pour vous, Jean-Philippe Ballas?
Ça, c'est un argument.
Lui-même n'a aucune idée de pourquoi il faudrait voter pour lui.
Je suis totalement pris au dépourvu.
Vous êtes pris au dépourvu. Sophie Larmoyer, pourquoi faudrait-il voter pour vous?
Parce que Sarah Lavoine aime le Japon et que j'ai parlé d'une culture du Japon très forte, celle des bains aromatisés.
Et qu'elle aime le Beaujolais, on peut le dire aussi.
Moi, j'ai pas d'action avant le Beaujolais.
Jérôme Lacroix, pourquoi faut-il voter pour vous aujourd'hui?
Au nom du seul principe de peut-être ces ateliers donc d'escrime en faveur des femmes victimes de violences sexuelles que je vous ai peut-être fait découvrir, puisque ça, en fait,
vrai.
J'aurais préféré ne jamais avoir à en parler.
Oui,
c'est beau, il tourne ça bien. Anne Le Gall,
je vous ai parlé
pourquoi
votre
répond pour
vaches.
Oui, pour
les vaches qui flottent sur l'eau en pleine ville.
Alors, en revanche, je peux dire pourquoi faut pas voter pour Anne Le Gall.
Moi, je vais vous dire pourquoi, Sarah Lavoine, vous aimez la fondue. Pour faire de la fondue, il faut du lait. Pour faire du lait, il faut des vaches.
Oh, ah, vous n'aurez pas pu être avocate. Hein. Voilà, je pense que là, il y aurait des procès qui auraient été perdus. Ma chère Eva Rock,
oui.
C'est à vous qu'il revient de nous annoncer déjà dans un premier temps le choix de nos auditeurs.
Il a un fan club. Jean-Philippe remporte les 2 points du public.
Il a un fan club.
Non, mais c'est vrai. C'est
et
vrai.
Peut-être au-delà de 38%. Ça, des hackers russes qui travaillent pour lui.
Non.
Je n'ai pas besoin de me justifier, mais c'est vrai que ma famille écoute énormément l'émission.
Pour ma part, je donne mon point aujourd'hui à Jérôme Lacroix, qui nous a fait vraiment découvrir quelque chose d'intéressant, l'escrime thérapeutique pour les femmes victimes de violences sexuelles. Je dois dire que c'était quand même un sujet assez fort. Mais vous le savez, ici, le dernier mot revient toujours à notre invité d'honneur. Attention, Sarah Lavoine, votre voix compte triple. Votez en votre âme et conscience. Qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour?
Mais c'est terrible, je déteste avoir cette responsabilité.
C'est terrible, mais...
Parce que j'aurais bien aimé choisir Jean-Philippe pour sa remarque sur « Il a fumé la moquette » sur le nom des IA.
C'est vrai, il mérite un point pour ça.
Ça a un point.
C'est vrai.
Mais c'est vrai que le sujet de découvrir l'escrime et la thérapie par ça pour ces femmes, c'est cool. Voilà. Ça va, mon choix va là. Mon choix va à Jérôme.
Mon GG, c'est gagné. Bravo, Jérôme Lacroix qui emporte effectivement 4 points aujourd'hui. C'est presque le grand chelem. Bien joué, c'était la 62e journée de l'équipe sauvage avec la star des décoratrices, Sarah Lavoine. Son livre « Couleur Sarah » aux éditions du Chêne est disponible. Il va vous aider à choisir les couleurs de votre nouvelle maison ou simplement il va vous permettre de rêver en le feuilletant. Merci Sarah d'avoir passé l'après-midi avec nous.
Avec plaisir.
Merci également à mes journalistes Eva Roque, Anne Le Gall, Sophie Larmoyer, Jérôme Lacroix, Jean-Philippe Ballas. Et un immense merci à vous, mes agneaux. Les audiences sont tombées hier. Vous êtes 81 000 de plus à nous écouter entre 16h et 18h. C'est très très gentil de votre part. À la prochaine vague d'audience, si on franchit les 100 000, Eva s'engage à faire le tour de l'Arc de Triomphe en monochimie.
Ah ouais.
Vivement la prochaine vague. L'équipe est sauvage revient demain 16h.
Du tout.
Si, si, vous avez pris l'engagement devant la France. Okay. Devant la France aujourd'hui, vous le ferez. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Et demain, c'est vendredi. Le vendredi, vous êtes en public, on a hâte. Votre invité sera le chanteur Garou. Ça va impulser, c'est sûr. Alors à demain, Mathieu, on a rendez-vous.